franceinter.fr.
Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora les Vainées, tu connais ?
384 000 km.
Mais croyez-vous que je vais plus regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Lorsqu'il voyage, il ne se contente pas de prendre des photos. Il dessine en Éthiopie, en Iran ou encore au Yémen. Sur son journal, il croque des scènes de vie, fait le portrait de personnes qu'il rencontre, peint des monuments. Le Monde, Philippe Bichon l'explore à la pointe de son crayon. Ses carnets sont ensuite reproduits le plus fidèlement possible pour être publiés. En préambule de chacun de ses ouvrages, on peut lire ces quelques mots. Ne voyez pas là le travail d'un journaliste, un précis ethnologique ou encore un guide de voyage. Ce carnet n'est rien d'autre qu'un journal de route spontanée. Spontanée et très personnelle, à travers ses dessins et les notes qu'il prend au fil des jours, Philippe Bichon nous fait découvrir le monde tel qu'il le perçoit en le traversant. Aujourd'hui, le temps d'un bivouac, cet insatiable globe croqueur, comme il se surnomme lui-même, feuillette avec nous les plus belles pages de ses carnets de route.
Mes amis, je ne sais où nous allons.
Sur France Inter.
Parfait, alors ça vous dit de faire un tour, allez-y.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Philippe Bichon.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, grand voyageur, vous avez longtemps été assistant architecte spécialisé dans les bâtiments anciens et depuis 2011, vous avez fait de votre passion pour le voyage et le dessin votre métier. Vous avez déjà publié 7 carnets de route retraçant vos voyages en Inde, en Égypte, en Iran ou encore au Yémen. Le dernier retrace votre voyage en Birmanie et puis le prochain nous emmènera en Éthiopie. Ils sont tous publiés, ces carnets de route, aux éditions Bleu Édition. Vous allez nous raconter ces voyages que vous avez effectués seul et puis nous dire aussi ce que réaliser ces dessins vous apporte tout au long de vos périples. En toute fin d'émission, pour notre séquence L'Aventure en direct, nous tenterons de joindre Laurent Houssin qui s'est lancé dans un voyage aussi poétique qu'insensé, partir du Mont Saint-Michel pour aller jusqu'au Mont Fuji au Japon en vélo à voile. Il se trouve actuellement au Kirghizistan. Il nous dira à quoi ressemble sa drôle d'embarcation et puis il nous dira comment se passe cette étonnante traversée. Voilà, brossé à grands traits le parcours de cette émission réalisée par Marie-Hélène Fauquet, préparée par Hugo Struna avec l'aide de Josépha Devaux-Thibault.
Position entre Matmata et Tataouine, Sour de Tunisie.
Alors on commence avec une petite halte en Tunisie, Philippe Bichon, car c'est là que vous avez réalisé, je crois, votre premier, tout premier carnet de route. Nous étions en 1993. Ce voyage s'est bien passé, je crois, puisqu'il vous a donné envie ensuite de faire bien d'autres voyages et bien d'autres carnets de route. Quel souvenir vous gardez de ce premier voyage en Tunisie ?
Alors exactement, c'est là que tout a commencé, la découverte du voyage en solitaire. J'avais fait des voyages auparavant, mais accompagné. Et c'est le fait d'avoir rencontré des voyageurs qui voyageaient comme ça seuls qui m'ont donné cette envie d'aller moi-même découvrir un peu le monde. Alors, la Tunisie, ce n'est pas le bout du monde. Hein. J'ai découvert des contrées un peu plus exotiques après. Mais c'est vrai que c'est là où tout a commencé. C'est-à-dire que partant seul en stop depuis Pau jusqu'à Marseille, j'ai eu cette envie, plus qu'une envie, c'était même un besoin d'avoir un compagnon de route à travers ce carnet.
C'est un vrai compagnon de route. En fait, on ne s'ennuie jamais quand on a ce carnet, qui n'est pas uniquement d'ailleurs un carnet écrit, mais un carnet dans lequel vous dessinez. Donc ça peut prendre le temps qu'il faut pour patienter ou pour occuper tous les temps morts. Il n'y a plus de temps mort.
C'est ça, c'est exactement ce que je dis aux gens. C'est que ça m'arrive très souvent. Exactement, on ne s'ennuie jamais quand on dessine, puisque une panne, par exemple, de bus, pour certains, ça va les faire râler. Et moi, je suis ravi de descendre et de commencer à croquer en compagnie des gens le bus, la réparation. Et s'il y a une deuxième panne qui survit, c'est encore mieux parce que du coup, j'ai le temps de finir mon dessin. Donc, c'est vrai qu'on ne s'ennuie jamais. Ouais. Et en Tunisie, c'est vrai que je me suis rendu compte. Donc, je suis parti avec cette idée de faire un carnet pour garder une trace de mon voyage, uniquement pour moi. Et puis vite, je me suis aperçu que ça pouvait être intéressant de le partager par la suite, un support donc pour le partager. Et en fait, ce que je n'avais pas soupçonné, c'est que ça me changeait tout simplement la façon de voyager, puisque le fait de m'arrêter pour dessiner, ça prend du temps. Donc c'est ça qui m'a fait voyager lentement.
Et voilà, lentement, et au point de vous arrêter dans une oasis où vous restez une semaine.
Voilà.
Et ça se passe comment dans cette oasis? Des très bons souvenirs, je crois.
Oui, parce que même s'il y en a une énormément d'autres par la suite, à ce jour, c'est encore un des souvenirs le plus fort. Où, dans ce souci que j'ai de me mélanger un peu la population, là, je me suis retrouvé invité. Bon, je fais la version courte parce que ça a été moins simple au départ, parce qu'on me considérait comme un voyageur lambda. Au départ, ils m'ont rejeté et puis ensuite, ils m'ont invité parmi eux et ils m'ont invité à promener les touristes. Et du coup, je me suis retrouvé avec une laisse avec trois dromadaires et trois Français dessus et engagé comme chamelier stagiaire. Donc voilà. C'était assez exceptionnel.
Ça, c'est le comble de l'intégration.
Voilà,
au bout de quelques jours, c'est vous qui accueillez les touristes et qui leur... qui fait le stagiaire, comme vous dites, apprenti chamelier. Je vous propose d'entendre la voix d'un autre grand voyageur qui aime dessiner au fil de ses voyages, un navigateur, artiste et écrivain, Titouan Lamazou.
Par timidité, j'ai du mal à aborder les gens. Et le dessin est un raccourci un petit peu, parce que d'abord, surtout dans les pays, en grande majorité où je vais, ce sont des pays qui sont plutôt en difficulté, des pays pauvres. Et le matériel que j'utilise... et le plus simple qui soit, c'est-à-dire c'est une feuille de papier et de la gouache comme on utilise à l'école. Donc même s'ils n'ont pas grand-chose, ce sont des matériels qu'ils connaissent et qu'ils peuvent comprendre très bien. Et puis en plus, ils voient tout à fait ce que je fais. Et je m'applique en plus, du mieux que je peux en tout cas, à faire des choses, surtout dans les portraits, des portraits très ressemblants. Je pense qu'ils sont séduits par une habileté apparente, d'une part, et puis que ça leur plaît beaucoup, mon dessin, quand j'ai fini un portrait qui réussit, il circule dans tout le village, quoi, où les gens, ça les fait rire.
Titouan Lamazou, extrait de l'émission Les Jeudis de l'Expo sur France Culture en 2009. Vous vous reconnaissez là-dedans, Philippe Bichon?
Oui, bien sûr. En plus, Titouan Lamazou est béarnais, comme moi. Ouais. Et par contre, je n'ai pas du tout le passé qu'il a. Hein. Lui, il s'est fait connaître aussi par la voile, surtout. Et c'est vrai qu'on lui doit à Titouan Lamazou d'avoir remis au goût du jour le carnet de voyage, qui est un genre très très ancien. Et lui, on lui doit voilà, d'avoir mis sur le devant de la scène ses carnets.
Alors ce qu'il dit, c'est une façon de vaincre sa timidité, de nouer des rapports directs avec les gens. Vous l'avez ressenti ça aussi?
Oui, alors moi j'étais, c'est vrai, quelqu'un de timide. Bon, quand j'ai commencé à voyager seul, je l'étais un peu moins. Mais c'est vrai que là... on n'a pas le choix, quoi. Je veux dire, quand on se met à dessiner dans ces pays, on est de suite entouré de dizaines, vingtaines, trentaines des fois de personnes qui se mettent même devant, qui vous empêchent de dessiner. Et c'est ça qu'il faut... Mais moi, ça n'a jamais été un problème, en fait, parce que très vite, je me suis rendu compte que voilà, c'était un moyen, justement, d'avoir une relation avec ces gens et pas être là, juste voyager, visiter, quoi.
Ouais. Le fait d'être équipé d'un pinceau fait que vous vous sentez moins touriste que si vous aviez un appareil photo, par exemple.
Oui, bon, alors j'ai toujours un appareil dans la poche, mais c'est vrai que je n'ai pas trop envie d'avoir un appareil un peu encombrant, visible. Et c'est vrai que voilà, le dessin a cette lenteur. Un dessin ne peut pas se faire dans l'immédiat. Bon, on peut, oui, faire un croquis très, très rapide. Mais moi, vous avez vu, je mets la couleur sur place, tout ça. Donc, ça prend du temps. Des fois,
ils sont vraiment
heures,
réalisés sur le vif, ces dessins. Alors, vous êtes venu dans cette émission avec les originaux de ces carnets.
Ben oui.
C'est impressionnant parce que les dessins sont impeccables. Il y a sur l'écriture que vous avez écrite, enfin, que vous avez formée pour accompagner ces dessins, très peu de ratures. C'est très bien écrit. Tout ça a été reproduit de façon très fidèle pour être ensuite commercialisé sous forme de livre. On est vraiment avec un très bel objet, le grain du papier. On a l'impression quand on lit ces carnets qu'on voyage par-dessus votre épaule. Enfin, on a vraiment l'impression d'y être avec vous. Et on a presque du mal à vous croire quand vous dites que tout ça a été pris sur le vif, que vous retouchez très peu les dessins ensuite, que ce sont des premiers jets que l'on a là entre les mains.
C'est ça, oui, il y a des photos qui l'attestent d'ailleurs. Hein. Si vous regardez, il y a toujours une page qu'on a mis dans le carnet publié de sorte de making-of, où on me voit en train de dessiner. Donc, mais ce n'est pas pour ça que j'ai pris les photos, mais j'aime bien montrer... effectivement, que c'est fait sur le vif. Alors, pas à 100%, parce que des fois, je ne peux vraiment pas, pour quelques raisons, il n'y a pas le temps, il y a une rencontre, des fois, la nuit tombe, je n'ai pas le temps de passer la couleur. Mais ça m'arrive, même par exemple, là, un peu plus loin, je suis revenu pour faire la couleur le lendemain, parce qu'on n'a pas l'idée, quand, si j'avais pas dessiné ou peint, j'aurais pas eu l'idée de revenir au même endroit. Mm-hmm. Mais revenir au même endroit, ça veut dire peut-être croiser la personne qu'on a vue un jour ou deux jours avant, qui vous reconnaît, qui va engager plus facilement la conversation, ou bien profiter du même moment à une heure différente de la journée. Voilà, donc on n'a pas... Et moi, j'aime vraiment, oui, faire sur le vif, même si, effectivement, je pourrais voir beaucoup plus de choses si je prenais la photo et que je dessinais à la maison. Je le fais des fois quand j'ai vraiment pas le temps et que je laisse une page blanche. On va dire, dans un carnet, il y a 3-4 dessins en tout, ouais, qui sont faits à la maison. Mais du coup, il n'y a pas cette ambiance. Cette, ouais. Et un dessin fait à la maison est trop parfait.
Mais peindre comme ça sur le vif, c'est, comme vous le dites, il faut choisir et du coup passer à côté de plein de choses. Parce que quand on décide de s'arrêter pendant une heure ou deux pour peindre une maison, un visage, c'est des tas d'autres choses qu'à côté on ne voit pas, on ne visite pas. C'est faire un choix.
C'est un choix, tout à fait. C'est sûr. Mais par exemple, bon, j'ai pas le dessin là, mais un qui me vient à l'idée comme ça, c'est au Maroc. J'étais en train de dessiner une maison avec le paysage, le grenier fortifié familial au-dessus. Et j'ai dessiné la dame sur le pas de la porte. Voilà. Et si j'avais fait la photo, bon, ben voilà, j'aurais eu ma photo. Si j'avais fait un croquis, j'aurais eu voilà, cette dame comme ça en tout petit. Mais comme j'ai pris le temps de faire l'aquarelle, elle est venue me voir. Ben, elle m'a offert le thé, donc je suis rentré dans sa maison. Elle m'a fait visiter le grenier. Donc si vous voulez, je dessine. Et après, c'est comme si je rentrais dans le dessin, dans le décor. Mmh. Et je deviens non plus voyeur, mais acteur.
Ouais. Et autant on peut dérober une photo, prendre une photo volée, autant on ne vole pas un dessin. C'est aussi accepter de se faire regarder par l'autre, ouais, de commencer
voilà,
à le dessiner.
C'est très rare les moments où on m'a refusé les dessins.
Le Globe Crocker, Philippe Bichon, feuillette avec nous ses carnets de route, dessiner le temps d'un bivouac sur France Inter jusqu'à 18h. Et pour voir quelques dessins réalisés par notre invité lors de ses voyages, bien rendez-vous sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Il y en a un petit peu plus sur la page Facebook du temps d'un bivouac.
Je t'écris depuis ma chambre, depuis le mois de septembre, depuis que les choses ont changé. Je t'écris les mains qui tremblent, c'est plus facile de s'interdire de l'évoquer. Je pense à toi mille fois par an, j'essaie pas de faire autrement, même s'ils me disent de laisser le temps faire ses affaires. Et pour te garder vivante, je te raconterai l'ardente épopée de ton équipe d'hier. Je ne parlerai pas d'absence, c'est tout le bien que je me souhaite de rappeler ton élégance. Faire tout pour que ça reste. Je ne trahirai pas l'absence, c'est tout le bien que je me souhaite. De rappeler ton élégance aux gens. De faire tout pour que ça reste vivant. Vivant. Je t'écris depuis mon antre, depuis le mois de novembre, depuis que le froid s'est pointé. Après le déni vient la colère, et comme je suis pas très énervé, je me dis que j'ai pas trop avancé. Mes affaires, pas mal, mille ans grandi, ça c'est normal. Et à chaque fois je réalise que je peux pas taper pour ces progrès. Je me dis que la mort mène d'un regret, mais aussitôt j'égalise. Je ne parlerai pas l'absence, c'est tout le bien que je me souhaite. De rappeler ton élégance, pour que ça reste. Je ne parlerai pas l'absence, c'est tout le bien que je me souhaite. De rappeler ton élégance aux gens. De faire tout pour que ça reste vivant. 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 Je t'écris du 23e étage, je te parle comme on parle au mirage. Et je me souviens de quand je t'ai dit de mourir sereine, que je serai solide, que j'ai de la peine, mais que tu m'as donné les armes. Tes réponses, mon credo, sont gravées sous mes abdos. C'est pas comme ça qu'on tourne la page. Tes conseils tatoués, cicatrisés au sel dans chacun de mes virages. Il y aura ton visage. Oh, je ne parlerai pas l'absence, c'est tout le bien que je me souhaite.
C'était Ben Mazoué, vivant sur France Inter, dans le temps d'un bivouac.
Mardi 3 septembre, je mets à exécution le projet formé tant de fois d'écrire un journal. Ce que je désire le plus vivement, c'est de ne pas perdre de vue que je l'écris pour moi seul. Je serai donc vrai, je l'espère. J'en deviendrai meilleur.
Lecture du journal du peintre Eugène Delacroix, écrit en 1832, diffusé sur France Culture en 2009, la lecture, hein, dans l'émission Les Jeudis de l'Expo. L'histoire des carnets dessinés remonte vraiment à loin, et même bien avant Eugène Delacroix, hein, Philippe Bichon. Vous inscrivez en fait dans une ligne. Il y avait notamment les naturalistes qui ont énormément voyagé en dessinant ce qu'ils observaient. Est-ce que, comme Eugène Delacroix, quand vous avez décidé de commencer vos carnets, au début, c'était une démarche personnelle, il ne s'agissait pas de les éditer ?
Oui, c'est vraiment ce que j'ai dit en début d'émission. Moi, l'idée de faire ce carnet de voyage est venue comme ça. Et à l'époque, d'ailleurs, Titouan Lamazou n'avait pas encore publié ses carnets.
Ouais.
Il y a 21 ans. Donc, le carnet de voyage n'était pas un genre éditorial. Il y avait quelques carnets de voyage publiés, mais pas énormément. Et du coup, c'est vrai que ça s'est fait comme ça. Et comme je vous l'ai dit, j'ai découvert que ça me faisait changer la façon de voyager. Donc, ce qui s'est passé pour aller très vite, c'est que j'avais fait un calendrier au départ complètement pour offrir à la famille et des amis imprimés à la maison avec les meilleures illustrations. J'ai composé des pages. Et ensuite, ça a plu. Donc, mon amie, en fait, a créé une maison d'édition au départ parce qu'elle écrivait des romans de fantasy. Et on s'est servi de cette structure pour éditer un calendrier, à Noël suivant. Et là, j'ai commencé à faire des salons du livre. Et l'idée de publier les livres est venue du public voyant mes carnets de voyage.
Ah oui.
C'est les gens qui m'ont dit « Mais pourquoi vous ne publiez pas ? Ça a l'air intéressant à lire, on aimerait en profiter. » Et donc, on l'a fait nous-mêmes. Et ça n'a pas été formaté par un éditeur, puisque c'est nous-mêmes.
Ouais. Et maintenant que vous... Parce que vous continuez de les faire, évidemment, ces carnets. Vous continuez de voyager et de compléter la bibliothèque. Est-ce que maintenant que vous les faites en sachant qu'ils seront édités, est-ce que ça change un petit peu les choses? Ça change ce que l'on écrit? Ça change ce que l'on dessine? On pense davantage au regard des autres?
Alors, je l'ai déjà eu, cette question. J'ai posé la question à des lecteurs qui me suivent depuis le premier. Et je ne pense pas avoir changé le style. Il y a une progression assez nette au niveau du dessin. D'ailleurs, mes tout premiers carnets étaient en noir et blanc. Et j'ai une formation donc dans l'architecture et donc un peu formé au croquis, mais à l'aquarelle, à la couleur, pas du tout. Et je faisais vraiment un blocage d'ailleurs là-dessus. Et c'est en Inde où je me suis dit, bon, vraiment, j'ai pas le choix, il faut que je m'y mette. Et donc, il y a une évolution, c'est très net. Hein. Si vous regardez ici, même ceux qui sont là, selon les années, on voit cette évolution. Les derniers croquis sont encore un peu plus aboutis, surtout la couleur. Et au niveau du texte, je pense aussi avoir progressé aussi un petit peu, mais je ne pense pas avoir enjolivé le texte. Justement, il y a certains libraires qui aimeraient que mon écriture soit plus littéraire, un peu plus travaillée. Mais moi, je me considère pas vraiment écrivain, j'écris pour moi au départ. Mmh. C'est personnel, sans être intime.
Voilà. Alors, on va se promener à travers vos dessins et vos explorations.
Position. Shiraz, capitale de la province du Fars, sud-ouest de l'Iran.
Alors, nous venons d'arriver en Iran. Vous avez fait un voyage de 5 semaines dans ce pays au cours de l'été 2008. Pour rentrer dans votre voyage, je vous propose de commencer par décrire l'une des aquarelles que vous avez réalisées. Elle est devant vous, c'est le carnet original, hein, ce n'est pas une reproduction. Alors décrivez-nous, on est où et qu'est-ce qu'on y voit sur ce dessin?
Donc là, on est dans la cour du mausolée de Shah Cherak à Shiraz. Et donc, on est l'après-midi, un jeudi après-midi. J'étais déjà venu le matin dans cet endroit. Et l'Iran, au-delà du plaisir de partager le voyage, je me sens vraiment investi d'une mission parce qu'on n'a que le côté négatif de l'Iran et on ne connaît rien de toute cette culture, de cette richesse. Donc déjà, contrairement à la plupart des pays musulmans, on peut rentrer dans les mosquées, dans les mausolées, ça c'est quand même très appréciable. Et du coup, là, je suis rentré et j'ai été... tout simplement, je me suis posé. Alors c'est vrai que si je n'avais pas dessiné, jamais j'aurais passé plusieurs heures dans cette cour.
Donc on est dans la cour d'un mausolée.
Voilà, on est dans la cour du mausolée, vous voyez ici la coupole. Et à l'intérieur, j'ai pu rentrer dans une partie, mais pas sous la coupole là, parce que c'est vraiment réservé aux fidèles. Et donc, je me suis posé et j'ai commencé à dessiner. Et puis, donc les gens venaient, commençaient à venir. Il faut savoir que, contrairement à nos églises où on vient essentiellement pour prier, dans ces pays-là, dans les cours des mosquées, les gens viennent discuter. Voilà, c'est un lieu de rencontre aussi. Ouais.
Je vous rappelle, Philippe Bichon, que les auditeurs n'ont pas l'image que vous avez
dans
les
yeux. Non, ils n'ont pas l'image.
Jusqu'à maintenant, vous avez décrit les à côté, le pourquoi on c'est y vrai. Est, les gens qui sont venus vous parler. Ils n'ont pas la moindre idée du dessin que vous avez fait là-bas.
C'est vrai, je n'ai pas trop l'habitude d'être à la radio.
Eh bien, allons-y.
Donc, c'est en fait un mausolée. Donc, on voit un portail, ce qu'on appelle un Iwan ou un Pishtak, qu'on retrouve en Inde. Ce qui frappe, c'est le bleu. Pourquoi le bleu ? Ouais. Parce qu'en Iran, voilà, toutes ces faïences, les coupoles bleu turquoise, bleu cobalt, ici un peu plus foncé. Et puis ces calligraphies. Alors, je ne suis pas un puriste de l'aquarelle. D'ailleurs, je suis pas. Vous voyez, ce n'est pas du papier aquarelle, puisque je veux pouvoir écrire. Donc, ce n'est pas un papier très épais. Parce que comme j'écris pas mal, je ne veux pas me retrouver à avoir trop de choses dans mon sac. Et du coup, je ne suis pas un puriste parce que vous voyez ici, j'ai mis les calligraphies blanches, je les ai reproduites avec un peu de Posca blanc. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, on voit ce portail, on voit donc cette construction avec des grands poteaux qui sont des poteaux en bois. Et puis ici, donc, nous avons une belle coupole magnifique, comme beaucoup dans les mosquées ou les mausolées. Persans et
vous aviez
gens.
Besoin de bleu, j'imagine, avant de partir. Vous vous êtes
forcément.
Dit, pour ce pays persan, il va falloir que ma palette de bleu soit conséquente et à la hauteur de tous
c'est
ces bleus que je vais devoir reproduire sur le papier.
C'est clair qu'il ne fallait pas oublier le bleu en allant en Iran. J'étais quand même prévenu. Et puis, on voit des gens donc, qui commencent à se mettre là parce que c'était donc, jeudi après-midi. Jeudi après-midi, ça veut dire que le lendemain, c'est la grande prière. La grande mosquée, la grande prière du vendredi. Et du coup, pourquoi le rouge ici sur le sol ? Ce n'était pas le cas au début, mais ils commençaient à mettre les tapis de prière. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai ce sol-là qui commence à devenir rouge.
Et c'est les tapis qui s'installent, en fait.
Voilà, les tapis qui s'installent. Et ce qui est rigolo, c'est que je m'étais mis à dessiner dans un endroit pour avoir cette perspective-là qui me plaisait. Et je ne me suis pas rendu compte que j'étais à côté d'une porte où ils sortaient les tapis. Et là, je me suis retrouvé avec plein de poussière. Mais si je changeais d'endroit, je n'avais plus cette même perspective. Donc, ça les amusait d'ailleurs que je ne bouge pas, mais j'essayais de leur expliquer. Et du coup, voilà, c'est ça que j'aime bien. Même si c'est dans la poussière, dans le bruit, j'aime être vraiment dans l'ambiance.
Ou dans les odeurs, parce que vous dessinez dans les souks, à côté des étals d'épices. Et là, voilà, un très bon prétexte pour rester des heures à vous enivrer de ces odeurs. Quels souvenirs vous devez avoir quand vous regardez ensuite ces dessins ?
Exactement, c'est ça. C'est le côté odeur, effectivement, je le dis, je crois d'ailleurs dans mon carnet. Oui. Là aussi, si je n'avais pas l'idée de dessiner, on n'a pas l'idée de s'asseoir à côté d'un stand d'épices pendant un petit moment. Et quant au souvenir en voyant le dessin, bon, ben ça, c'est clair, c'est sûr que à partir du moment où on a passé du temps, autant une photo, bon, une photo aussi peut vous remémorer un souvenir, ça c'est évident. Mais je dirais un dessin encore plus fort parce que l'instant est plus long. Mmh. Et ça va être souvent associé à une rencontre. Et c'est ça le plus important, c'est l'instant, la notion du temps.
Alors
qui s'allonge.
Avant de partir, vous rencontrez un Iranien en France qui vous dit « Ah oui, alors là-bas, tu pourras dessiner ce que tu veux, mais il y a une chose que tu ne pourras jamais dessiner, en tout cas, il vous le déconseille fortement, c'est un molla. » Vous prenez cette interdiction formelle comme une sorte de défi.
C'est ça, je me suis dit, tiens, là, c'est un petit challenge, je l'aurai, mon portrait de molla. Alors, contrairement à Tito Lamazou, vous avez vu que moi, c'est surtout les bâtiments que j'aime bien dessiner parce que c'était aussi ma formation. Les portraits, bon, ben, ça vient petit à petit. Et comme le moteur numéro un du voyage, c'est quand même la rencontre pour moi. Effectivement, quand j'ai poussé la porte de la première école coranique, je me suis dit là, ça y est, fini les Welcome to Iran, fini les sourires dans la rue, fini cette... Oui. J'étais vraiment sur mon petit nuage en voyageant en Iran.
C'est une chose sur laquelle on n'a peut-être pas insisté, mais ce que vous retenez de ce pays, c'est l'hospitalité.
Voilà.
Partout où vous allez, vous dites, j'ai même du mal à dépenser mon argent,
c'est
tout
ça.
Le monde m'invite. Presque comme si ils avaient une image à défendre, des clichés à faire tomber et qu'ils prenaient tous une très grande, à cœur de vous faire changer, tomber certaines idées reçues qu'on peut avoir en Occident.
C'est exactement ça, mais tous les gens qui sont allés en Iran vous diront, je pense, la même chose. Pas tous, mais bon, voilà, quasiment tous.
Alors, pardon.
Oui, excusez-moi. Et donc, par rapport à ce mot-là, voilà, quand j'ai poussé juste la porte de cette école coranique, j'étais un peu, je me suis dit, là, ça y est, je vais chez les méchants, quoi. Fini ce petit nuage où tous les gens sont gentils. Et puis, non, comme quoi aussi, là, on peut trouver des gens intelligents. Et je n'ai pas eu de problème. J'ai commencé à parler avec un jeune mollah qui parlait un petit peu l'anglais. Et je lui ai demandé si je pouvais le prendre en photo. Aucun souci et aucun problème aussi pour faire son portrait. Alors, je me suis assis aux côtés de mollah un peu plus âgé. Je me suis dit peut-être que là, ça va coincer. Mais non, pas du tout. Il y a une photo, vous avez peut-être vu, où on me voit au milieu de ces mollahs en train de le dessiner.
Mmh. Alors, ce mollah s'appelait Abdul Karim. Et souvent, une fois que vous les avez dessinés, les gens que vous rencontrez, ils vous laissent un petit mot sur votre carnet qu'on peut lire si on parle arabe, parce qu'évidemment, ils l'écrivent dans leur langue.
Mais... Attention, ce n'est pas l'arabe.
Ah, pardon,
c'est du persan.
C'est du persan, ouais. Excusez-moi. Et le mot est traduit. Traduit en fin d'ouvrage, alors je lis sa traduction,
parce que
je ne parle ni arabe ni persan. Donc voilà, c'est le mollah Abdul Karim qui a écrit ça sur votre carnet. Merci de ta présence sur la terre d'Iran, berceau des premières civilisations et des sacrifices. J'espère que tu quitteras l'Iran avec de bons souvenirs. Les peuples ont un point commun, c'est l'unicité et la pureté. Il serait bien que nos peuples entretiennent des relations sans la haine et la fierté des gouvernements, et qu'il puisse faire un pas vers l'humanité et l'amitié. On sait, c'est vraiment des messages de paix que vous ont délivrés les gens que vous avez rencontrés là-bas.
Ouais, je trouve ça super que vous ayez choisi. Ça m'arrive de le dire quand je dis aux gens, voilà, je fais écrire les gens effectivement dans mes carnets, vous avez vu, mes carnets sont farcis, ouais. Sans faire de jeu de mots, messages. Ça marche bien pour l'Iran. Ouais. Et du coup, souvent, c'est quand même un peu anecdotique. On est content de te rencontrer, tu dessines bien. Mais là, c'est vrai qu'en Iran, plus de la moitié des messages sont dans ce sens-là. Les gens, en gros, c'est « tu as vu l'Iran ?» Va en France et surtout dit aux Français que voilà, on n'est pas comme on nous fait croire.
Vous le parlez, le farsi ?
Alors, les derniers voyages, là, depuis quelques années, j'essaye de... Là, je suis parti que 5 semaines, donc je ne peux pas me lancer dans l'apprentissage. Et en plus, comme je change souvent d'un pays quasiment d'une année sur l'autre, je pars au moins avec un guide de conversation. Et 3 semaines, 1 mois avant de partir, j'apprends à savoir compter. En regardant les chiffres, une fois que j'ai appris à peu près en 2 heures à compter, je regarde tous les chiffres, les plaques d'immatriculation sur mon vélo ou en voiture avant de partir et je les dis dans la langue. Ce qui fait que le premier jour, je sais compter. Je sais dire bonjour, merci, comment vous appelez, quelle heure il est, enfin voilà, plein de trucs. Et tous les jours, un petit peu plus. Et comme c'est une langue indo-européenne écrite avec les caractères arabes, on a pas mal de repères en fait.
Quelle est la situation des femmes ? Puisque vous dites que vous avez été relativement agréablement surpris par cette hospitalité, quel regard avez-vous porté sur la condition des femmes en Iran ?
Ben, effectivement, c'est un cliché que j'aimerais aussi faire tomber, c'est que la place de la femme en Iran n'est pas comme on l'imagine. C'est pas un pays arabe, l'Iran, c'est la Perse. Alors évidemment, les femmes ne sont pas libres, elles sont par le gouvernement islamique tenue de porter un foulard, un voile, d'avoir les manches couvertes, etc. Mais passé cette interdiction, quand on pénètre à l'intérieur des foyers, et c'est très difficile de voyager en Iran sans être invité, comme on l'a vu, on se retrouve là avec des... Voilà, plus aucune interdiction, le foulard est enlevé. Voilà.
Vous dites quand même que dans la rue, vous avez vu une Iranienne se faire arrêter parce que son foulard était mal ajusté. Donc il y a quand même certains signes qui vous rappellent quand même qu'on n'est pas dans un pays où absolument libre.
Tout à fait. C'est vrai que j'avais du mal à oublier que j'étais dans cette dictature islamique, tellement voilà, les gens étaient sympas. J'étais surpris aussi de voir des femmes fumer le narguilé, boire le thé dans les cafés. Dans la rue, le foulard, il est souvent là, ici, à mi-tête. Il tombe, elles le remettent assez vite. C'est toujours un peu des provocations comme ça. Et puis, de temps en temps, ben, voilà, le régime... j'imagine qu'il veut faire un exemple et de temps en temps, il y en a une qui se retrouve emprisonnée.
Là, alors, je précise, je le rappelle, je l'ai dit, mais je le rappelle quand même, c'est important à ce moment-là de la discussion, que vous êtes allé en Iran en 2008, soit un an avant les manifestations pacifiques qui ont été très durement réprimées suite à la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad. Une fois que vous avez vu ce pays de l'intérieur, que vous vous êtes attaché à ses habitants, comment avez-vous vécu ces scènes que l'on voit aux informations mais qui nous paraissent très lointaines ?
C'est sûr que quand on a été dans le pays, sans être un grand connaisseur, parce que je n'ai fait que le traverser pendant 5 semaines, forcément, vous avez vu que j'ai quand même fait des rencontres, j'ai été dans des familles, j'ai connu des gens. Donc c'est clair que voir ce qui se passait, c'était plutôt douloureux. D'ailleurs, j'étais en contact avec eux à ce moment-là. Et beaucoup de mes rencontres d'ailleurs que j'ai faites, qui sont dans mon carnet, qui ont témoigné, les rencontres les plus fortes presque, elles ont déjà quitté l'Iran. Elles sont au Canada, elles sont en Malaisie.
Donc ce sont peut-être aussi les personnes les plus ouvertes que vous avez croisées là-bas, s'ils ne sont pas restés suite aux derniers événements en Iran. On continue notre voyage tout en images. Le dessin passe à la radio avec le globe croqueur Philippe Bichon. Dans un instant, nous irons au Yémen, où l'architecte de formation que vous êtes s'est régalé, Philippe Bichon.
Strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. See, I'm a young soul in this very strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake.
Inter, le monde dans ses moindres recoins. Daniel Fievé.
Yael Naïm nous accompagne dans ce bivouac avec New Soul. Vous écoutez France Inter, nous sommes avec le globe croqueur Philippe Bichon.
Position. Sanaa, capitale du Yémen, palais Al-Hajar.
Me balader ainsi dans le vieux Sanaa est un tel choc qu'il me semble impossible de décrire ce que je vois. Vraiment, je ne sais plus où donner de la tête. Passé Bab el-Yémen, la dernière porte subsistant des remparts, un véritable bond en arrière dans le temps s'opère. Comment ne pas rester ébahi devant ces maisons-tours et leur architecture fabuleuse? Une telle harmonie se dégage de ces camaïeux d'ocre ornés de toutes ces décorations à la chaux sur les façades, aux formes géométriques variées, aux ouvertures toutes surmontées de camarilla qui la nuit s'illuminent pour parfaire la magie. Les acteurs évoluant dans ce décor de mille et une nuits sont en adéquation parfaite. Les hommes en djellaba blanche sous les vestes à l'occidentale et ornés de l'inévitable jambiya à la ceinture, tandis que les femmes voilées de noir ne laissent au mieux entrevoir que leurs yeux cernés de col. On est définitivement dans un autre monde. En m'enfonçant dans une échoppe ouverte sur la rue, je découvre un dromadaire faisant tourner un moulin à graines de sésame pour en faire de l'huile. De splendides minarets cylindriques aux motifs variés blancs et briques qui se dressent au détour d'une rue. En m'enfonçant dans le souk un peu plus loin, l'encens et la myrrhe se mêlent aux épices pour ravir mes sens. Partout, les sollicitations sont chaleureuses et toujours dénuées d'intérêt financier.
Philippe Bichon, lisant un court extrait de ses carnets de route. Là, nous étions donc au Yémen. Et le oud que l'on entend derrière, c'est également vous qui jouez, Philippe Bichon. Deux façons de rentrer en contact avec des gens lorsqu'on ne maîtrise pas leur langue, le dessin et la musique.
Oui, oui, la musique aussi. Alors, ça vaut quand on est dans ces pays-là où c'est l'instrument local. C'est vrai que j'ai aussi cette possibilité de partager avec les gens. Ils sont souvent surpris effectivement de voir un blanc bec comme moi jouer un petit peu de leur instrument et ça vaut forcément des beaux échanges.
Alors au Yémen, on l'entendait dans ce court extrait que vous avez lu de vos pages, vous vous êtes régalé, on l'a dit, vous êtes de formation architecte, et là vous vous trouvez, vous ne savez plus où regarder de la tête, les bâtiments sont superbes, avec des vitraux splendides sur chaque maison, et apparemment la nuit, c'est un véritable enchantement de voir tous ces vitraux s'illuminer.
Oui, effectivement, le Yémen, c'est un rêve, je pense. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays, je pense même que c'est le seul où on peut qualifier... Enfin, si on devait donner un seul mot pour le pays, ça serait évidemment architecture, parce qu'il n'y a pas de pays avec une architecture aussi traditionnelle, aussi remarquable et omniprésente partout, qu'elle soit de briques à Sanaa, de pierres dans les villages... dans des nids d'aigles complètement improbables ou de sable dans le désert.
Trois villes du Yémen sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont Sanaa.
Dont Sanaa, oui, qui est une capitale absolument incroyable. Comme je disais, encore comme ça, hors du temps. Du moins, la vieille ville. Alors, j'aurais aimé la découvrir dans les années 70 où elle était que cette vieille ville. Mmh. Mais malheureusement, maintenant, il y a une ville moderne, bien sûr, de 2 millions d'habitants autour.
Avec quand même des habitants qui, en plus, sont en costume à travers... Vous le dites, vous avez vraiment l'impression d'être projeté dans le temps, dans les contes des mille et une nuits, dans ce décor féerique des contes des mille et une nuits. Alors que ce n'est pas du tout l'image qu'on a du Yémen, parce qu'effectivement, avec la configuration géopolitique... D'ailleurs, aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères déconseille aux Français de se rendre au Yémen. D'ailleurs, vous faites le constat, quand vous arrivez là-bas, vous êtes le seul touriste. Hein, là, pour le coup, vous êtes vraiment seul. Quel risque vous prenez en allant là-bas ?
Alors j'ai mesuré les risques. Disons, j'avais, si on lit mon carnet d'Himalaya, en 2007, la première page, je devais atterrir à Sanaa. Et en fait, je m'étais un peu, disons, je savais que le risque était de se faire enlever. Et en 2007, il y a eu quand même un tournant, on a commencé à voir un premier attentat 3 semaines avant que je parte. Et c'est ça qui m'a fait changer ma direction vers l'Himalaya. Ensuite, il y a eu d'autres événements, effectivement, mais je considérais 2 ans plus tard que voyageant seul, avec un keffieh sur la tête, en sachant me débrouiller pour prendre les taxis collectifs, bondés, mélangés à la population. D'ailleurs, souvent, j'ai passé les checkpoints au milieu comme ça, avec le keffieh, on m'interpellait même pas. Là, je ne voyais pas trop le risque. Je ne suis pas allé dans les endroits... Je n'ai pas pu traverser le désert. Je ne pouvais même pas aller au nord. D'ailleurs, la guerre a repris entre-temps. Donc, les risques étaient mesurés. Il fallait, de toute manière, pour quitter la capitale, aller à la police et donner son itinéraire. D'ailleurs, un jour près, je me suis fait refouler au checkpoint. J'ai dû revenir. Enfin, donc, je ne faisais pas quand même n'importe quoi. Voilà.
Alors, les dessins que vous en avez ramenés restent superbes. Et effectivement, puisque vous avez également pris des photos, alors pas spécialement dans vos carnets de voyage, mais par ailleurs, en allant sur votre site internet Globecrocker, on peut voir certains immeubles, certaines habitations que vous avez pris en photo et que vous avez dessiné. Et c'est vrai que les dessins apportent quelque chose de sublime. Ils sont à la fois très ressemblants et à la fois plus beaux, comme si vous sublimiez la réalité, comme s'ils apportaient une part de rêve. Comment vous expliquez ça ?
Je ne sais pas trop l'expliquer. C'est vrai qu'on peut faire des photos magnifiques. Ce n'est pas difficile d'ailleurs dans ce pays de faire des photos superbes. D'ailleurs, moi je l'ai fait, ce n'est pas un réflexe que j'ai. Et les gens sont étonnés de voir les photos que je peux faire avec un compact. C'est vrai que le dessin a le fait que c'est en fait une interprétation de la réalité. Donc ce n'est pas exactement ce qu'on voit. On interprète chacun avec sa patte artistique. Après, au-delà de la technique, parce que moi, je connais des amis, des collègues qui font comme moi et qui font ça bien mieux que moi encore. Mais chacun a sa patte, à son interprétation.
Mais c'est vrai que c'est amusant parce qu'au Yémen, vous y êtes retourné ensuite, alors invité par le gouvernement local, je crois, avec d'autres artistes, un collectif d'artistes. Et donc, vous avez dessiné les mêmes personnes que vous croisiez. C'est amusant de pouvoir comparer. Vous le faites sur votre site, vous renvoyez vers les liens comme ça entre différents artistes. Et c'est amusant de voir la même personne croqué par différents dessinateurs et dans différents styles. Et vous dites, alors je ne sais pas si c'est de la fausse modestie, mais que autant pour l'architecture, vous savez, c'est votre domaine, mais pour les dessins, vous sentez que vous avez encore à progresser, vous aimeriez mieux faire.
Oui, vous voulez dire les portraits.
Les portraits, oui,
bah
excusez-moi.
Oui, comme en plus c'est du sur le vif et que j'arrache jamais de pages, c'est ça que je ne sais pas si on l'a dit encore, mais mes carnets, voilà, c'est sans brouillon et sans filet.
C'est du brut de brut. Jamais de pages. Si le dessin ne peut pas être fini, il reste.
Alors des fois, ça dépend. Par exemple, bon, on ne va pas sortir du Yémen, mais j'avais un exemple.
Si, en Égypte.
Si. Ouais. Ou même, j'avais un exemple en Himalaya, je peux vous le montrer vite fait si j'arrive à trouver la page. Non, elle n'est pas là.
Oui, racontez-le-moi parce que les auditeurs de toute façon ne l'auront pas.
J'ai été bloqué pour la réparation d'un pont à 4000 mètres en allant vers le Ladakh. Et le pont s'est arrêté, j'ai commencé à dessiner les camions avec les chauffeurs SIC qui sont venus très vite autour de moi, qui étaient tout fiers que je dessinais leurs camions. Et puis je ne pensais vraiment pas que le pont allait se réparer trop vite et je pensais avoir largement le temps de faire ma couleur et tout ça. Et j'ai eu le temps de mettre que le rouge, le dessin terminé. Et j'aurais très bien pu le soir finir ce dessin, mais je me suis dit non, l'histoire a fait que voilà, à ce moment-là... On a dû partir, j'ai mis le rouge et c'est un dessin qui fonctionne comme ça. Je laisse. Mais ça m'arrive évidemment des fois de continuer des dessins.
En fait, quand le fait de ne pas avoir achevé le dessin raconte une histoire, vous tenez à ce que ce soit le cas. C'était, moi je pensais à l'Égypte où je crois que vous avez tenté de dessiner Ramsès II. C'est alors ça. Racontez ce qui s'est passé.
Alors évidemment, Ramsès II posé pour moi dans son sarcophage.
Voilà, vous aviez l'éternité pour le croquer.
Dans la mosquée, dans la salle des momies royales et debout comme ça. Alors évidemment, il y avait marqué nos photos partout et je pensais avoir la légitimité pour faire un croquis comme ça sur mon carnet et j'ai fait une esquisse rapide au crayon alors que tout est fait au feutre comme c'était à l'envers comme ça, c'était pas évident en plongée, je l'ai fait au crayon d'abord et puis le garde est arrivé, il a failli me déchirer le carnet en me disant nos photos, bon, j'ai réussi à sauver le dessin. Je lui ai dit que je le gommerais, je ne l'ai pas gommé et je me suis dit que je n'allais pas le repasser au feutre parce que voilà, l'histoire a fait que c'était comme ça.
Ouais, vous avez été perturbé dans la réalisation du dessin, donc vous l'avez laissé dans son jus, on pourrait dire, ce dessin. Allez, dans un instant, nous allons nous rendre dans un pays que vous connaissez, Philippe Bichon. Vous y êtes allé, mais à mon avis, pas avec le même moyen de locomotion que Laurent Houssin, que nous aurons au téléphone. Il se déplace en vélo à voile. Il nous en dira plus dans un instant.
Sur France Inter, les horizons s'ouvrent. Le temps d'un bivouac.
In Chile, in Chile, can I sing with you? About Mr. Tembo, what he's got to do. But first I'm going back to the co-op road. To find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way. This song to tell you how he feels, but to
TV in Mr. Tembo's room. Off the emphatic night, he checked in on his own at Mokomazi Inn and made it his home. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there, he won't need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned.
C'était Damon Albarn, Mr. Tumbo, dans le temps d'un bivouac sur France Inter. La programmation musicale est signée Mélissa Fulpin. Et à présent, nous mettons le cap sur le Kyrgyzstan, un pays coincé entre le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et la Chine. Un pays dans lequel Laurent Houssin et son vélo à voile viennent d'arriver.
Allô.
Sur France Inter.
Vous pouvez patienter un petit moment.
Oui, mais c'est le satellite qui m'attend.
Oui, c'est le satellite, bien sûr.
L'aventure en direct.
L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il.
Laurent Houssin, bonjour.
Bonjour Daniel, bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous êtes parti du Mont-Saint-Michel le 21 octobre 2013. Vous espérez arriver au Japon, au Mont Fuji, en octobre 2014. Hein, presque un an, un peu plus d'un an de voyage, une longue traversée que vous effectuez avec votre vélo à voile. Avant toute chose, décrivez-nous cette drôle d'embarcation. À quoi ressemble votre vélo à voile, Laurent Houssin ?
Alors, il faut imaginer un vélo sur trois roues, deux roues à l'avant et une roue à l'arrière, chargé d'une soixantaine, entre 60 et 80 kg de bagages.
Ah oui, il y a une petite remorque derrière.
Il y avait la remorque au début, elle était trop lourde, donc il n'y a plus de remorque maintenant.
Ah oui, d'accord.
Et donc, ce vélo, en fait, est équipé d'une voile de 2,5 mètres carrés qui me permet, en fait, de jouer avec le vent, de capter les vents de travers et les vents portants, pour continuer à pédaler, mais augmenter ma vitesse de pointe, mes capacités de vitesse.
Ah oui, c'est à la fois le vent et les mollets qui vous font avancer, donc vous avez des notions de navigation pour savoir comment orienter votre voile. À quelle vitesse vous déplacez-vous avec cet engin ?
Donc là, sur la traversée du Kazakhstan, c'était donc un peu plus de 2000 km du nord au sud que je viens de terminer, donc en arrivant à Bishkek. Donc c'était une vitesse moyenne de 30 km/h en étant chargé, ce qui n'est pas trop mal, avec des pointes à, je pense, 50-55 km/h.
Ouais. Alors vous avez effectué effectivement la traversée du Kazakhstan, 14 jours. Alors vous avez traversé la steppe en autosuffisance totale. Quelle température pendant cette traversée qu'on imagine assez difficile ?
Alors, difficile par la chaleur, oui, un petit peu, parce que c'était 38, 39, 40 degrés, un petit peu moins qu'au Turkménistan, le grand désert qu'il y avait avant. Là, c'est un petit peu plus frais, venté, mais très, très, très aride. Donc, obligatoirement, on est tout ce qu'il fallait pour boire et manger, et surtout, ne pas se tromper de route et pas avoir de casse. Il y a des endroits qui sont vraiment très peu fréquentés.
Eh oui. Et alors, évidemment, vous ne devez pas du tout passer inaperçu avec votre vélo à voile. On imagine un peu de la façon dont notre invité aujourd'hui, Philippe Bichon, noue des contacts avec les gens qu'il rencontre en dessinant, en montrant ses dessins, en parfois leur en offrant certains. Vous, votre embarcation doit aussi susciter la curiosité et créer des contacts avec les gens que vous rencontrez.
Voilà, c'est ça, c'est un petit peu le rôle, vraiment être visible des automobilistes.
Ah oui.
Et le double effet, c'est qu'on est quand même très visible aussi, donc des piétons. Donc voilà, il est aussi bien, oui, sur l'Iran avec les arrêts pour les Tchèques, enfin, quel que soit le pays, depuis Mont-Saint-Michel, voilà, c'est toujours un accueil assez fabuleux. L'Iran, évidemment, mais c'est vrai que ça aide à nouer le contact, à discuter.
Oui.
Les gens aiment se faire prendre en photo avec le vélo. Voilà, il s'est beaucoup engagé le dialogue.
Oui, donc vous nous confirmez ce que nous disait notre invité Philippe Bichon. En Iran, vous avez aussi pu goûter une hospitalité hors du commun.
Ah oui, oui, totalement. Entre 2007, mon premier voyage, j'étais resté un mois, et 2014, donc quand je suis passé pour Aliatrek, c'était la même, encore mieux.
Ouais. Alors,
vraiment des gens extraordinaires.
Vous êtes là, arrivé au Kirghizistan. Alors, on peut dire Kirghizistan ou Kirghizistan, mais dans tous les cas, c'est difficile à prononcer. Je crois que notre invité, Philippe Bichon, est passé par là. Alors, peut-être une question ou peut-être un endroit que vous auriez envie de lui conseiller à voir au Kirghizistan, Philippe Bichon ?
Oui, en fait, je n'ai pas vu grand-chose du Kirghizistan puisque c'était l'été dernier où je suis allé un mois en Ouzbékistan, puis un mois au Tadjikistan. J'avais préféré voilà, ces deux pays-là. Et le Kirghizistan, je suis allé juste voilà, 5 jours parce que j'avais mon avion retour à Bishkek. Et malheureusement, en fait, ce qui m'a un peu embêté, alors ça ne sera pas le cas pour Laurent, moi ouais. Je suis arrivé en fait, début octobre et malheureusement, les yourtes étaient déjà repliées, il commençait à faire froid.
Ah, alors que pour vous, les yourtes sont encore intactes, Laurent Houssin ?
Oui, c'est ça. On y en donne encore pas mal. Alors, on les voit déjà dans le sud du Kazakhstan,
ouais.
qui vraiment communique avec le fabriqué avec le Kirghizistan. Et donc, oui, il y en a encore pas mal. Je pense que ce septembre, si l'arrière-saison est belle, ils resteront quand même un petit peu plus longtemps.
Alors, on ne se rend peut-être pas bien compte en vous entendant, parce que la ligne téléphonique est quand même un petit peu hasardeuse, Laurent Houssin, mais vous restez très très connecté pendant tout votre voyage. D'ailleurs, j'ai eu connaissance de votre traversée par Twitter, c'est comme ça que vous m'avez contacté. Vous êtes aussi sur Instagram, vous avez un site internet asiatrek.eu que l'on va mettre en lien sur la page de l'émission, et vous continuez à rester connecté comme ça sur la toile. Donc là où vous êtes... Là où vous êtes, pardon, apparemment, ça continue de passer et pour vous de rester connecté, c'est même un peu surprenant. Pourquoi n'avez-vous pas voulu être un petit peu profiter de ce voyage pour vous déconnecter ?
Ah, parce que les gens sont vraiment de plus en plus demandeurs. Au début, j'avais dit que j'allais partir sans internet, voilà, vraiment coupé. Mais voilà, les gens en France, les gens que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure de mes voyages, que ce soit en Allemagne, Hongrie, on a des contacts avec ces gens-là. Ces gens-là ont obligatoirement Twitter.
D'accord. C'est donc une façon de... Pardon Laurent, il faut que je coupe, mais c'est donc une façon pour vous de rester en contact avec les gens que vous croisez sur votre chemin. Et puis bien sûr, pour nous, de vous suivre. Donc on va mettre sur la page de l'émission et sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac tous les liens qui permettent de suivre votre Asia Trek. Merci beaucoup Laurent Houssin, au revoir et bon vent.
Merci, bonne soirée, merci beaucoup.
Au revoir. Merci à vous également, Philippe Bichon, c'était un plaisir. Je rappelle que vous avez déjà publié 7 carnets de route, dont l'Iran, le Yémen, le dernier paru, la Birmanie, et puis apparaître prochainement l'Éthiopie. Ils sont tous publiés chez Bleu Édition, et vous organisez aussi des stages de carnets de voyage. Vous emmenez les gens, Vous les faites voyager, et en même temps, vous leur apprenez à regarder le monde à travers des dessins, vous leur apprenez un peu à dessiner.
C'est ça.
Merci, Philippe Bichon.
Au revoir. Un grand merci à vous.
Et bon retour à Pau.
Oui, merci.
Merci pour ce merveilleux spectacle.
La routine.
Demain, nous recevrons Olivier Le Carrère, journaliste et navigateur. Il s'est mis en tête d'aller explorer les zones réputées dangereuses, voire maudites, comme le fameux triangle des Bermudes ou la zone 51 du Nevada. À demain donc pour de nouvelles aventures.